Bienvenue dans le deuxième épisode de Pierre Power, qui est une suite de hors-série du Pédagogcast réalisé en collaboration avec ChangeMe et qui s'intéresse à la question de l'évaluation par les pairs sous toutes ses formes. Je suis Julien Maurice et j'accueille dans ce nouvel épisode Alain Goudet de Neoma Business School pour un échange eh bien, autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre justement bien de l'évaluation par les pairs. Allez, c'est parti! Bienvenue Alain Goudet, bienvenue dans Pierre Power. Alors, je souhaitais te rencontrer en fait aujourd'hui pour aborder finalement une question que tu connais bien, parce que tu es un peu expert et entre guillemets reconnu en tant que tel aussi sur l'intelligence artificielle, sur l'IA finalement. Mais justement, l'IA en rapport avec ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est-à-dire l'évaluation par les pairs en tant que tel. Et je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur ce que pourrait apporter l'IA dans ce cadre-là. Alors déjà, Alain, si tu peux te présenter déjà en quelques mots pour les auditeurs.
Oui, bonjour Julien. Donc Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, en charge du numérique. Et du coup, j'ai dans mes équipes notamment une équipe en charge de la R&D et l'innovation sur la pédagogie.
D'accord. Et dans le cadre de cette équipe, effectivement, vous avez déjà fait des tests d'ailleurs au niveau de l'évaluation par les pairs. Pour reprendre un petit peu cette thématique, je voulais savoir comment tu voyais, on va dire, l'usage de l'IA ou qu'est-ce que pourrait apporter l'IA pour l'évaluation par les pairs. Et peut-être on peut commencer par se demander qu'est-ce qui pourrait être améliorable, on va dire, dans ce genre de dispositif.
Alors, l'évaluation entre pairs est un dispositif qui est assez intéressant puisque, pour moi, le moment de l'évaluation est partie intégrante du process d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en bonne maîtrise d'un sujet, on doit être en capacité d'évaluer un travail qui est réalisé, effectivement, donc par un collègue de promo, par un pair. Et c'est important de dire ça parce que, du coup, hein, quand en tant que professeur, je donne un exercice, par exemple un travail sur une entreprise à mes étudiants, où chaque étudiant va pouvoir choisir son entreprise et son terrain d'application. Du coup, l'idée, c'est justement que l'étudiant qui va venir corriger puisse transposer ce qu'il a appris pour analyser un autre cas d'entreprise que celui sur lequel il a travaillé. Et ça, c'est assez intéressant à faire parce que du coup, sur les exercices que je peux donner à mes étudiants, finalement, là où avant le mécanisme d'évaluation entre pairs, il voyait finalement un cas d'entreprise, celui sur lequel il travaille. Aujourd'hui, il voit celui sur lequel il travaille, mais aussi ils évaluent en fait deux, voire trois autres contextes d'entreprise. Donc l'énoncé est le même, mais le terrain d'application est différent. Donc finalement, pour eux, au final, grâce à cette évaluation entre pairs, l'apprentissage est beaucoup plus riche. Donc ça, c'est un dispositif qui est assez utile. Et je crois qu'un des autres avantages majeur de ce type de dispositif, c'est qu'à une époque où finalement tout, en tout cas de plus en plus de choses sont automatisées, et je pense ici à des mécanismes d'évaluation automatisés qui commencent à apparaître. Hein. Mm-hmm. J'ai eu l'occasion de tester deux, trois choses là-dessus. On voit que finalement, cette évaluation entre pairs est un moyen de maintenir de l'humain finalement dans l'évaluation. Et ça, moi, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important parce que le moment de l'évaluation est un moment quand même très important dans le processus d'apprentissage. Mmh. Pour moi, il fait partie intégrante. Et puis, surtout, c'est aussi un moment qui finalement va venir attester d'un certain niveau atteint. Et c'est un moment sur lequel l'étudiant qui a produit un travail va être en attente d'un feedback constructif pour améliorer son travail la prochaine fois.
Et justement, par rapport à cette notion de feedback, est-ce que, selon ton expérience ou l'expérience de tes équipes par rapport à ça, est-ce que les étudiants jouent le jeu justement de faire un feedback qualitatif ou pas?
Alors, oui, dans le sens où ils sont accompagnés. C'est-à-dire que quand j'utilise ce mécanisme d'évaluation entre pairs, en fait, évidemment, je ne les laisse pas dans la nature sans savoir comment évaluer. Donc, on fournit forcément une grille d'évaluation, donc avec l'ensemble des éléments, des dimensions qui vont être à évaluer dans le travail qui va leur être présenté, avec deux approches, évidemment, une approche quantitative, donc là, chiffrée, et une approche qualitative. Et on les invite à évidemment développer la partie qualitative, hein, qui est la partie importante, hein, en termes d'action, d'amélioration, hein, pour un étudiant. Donc ça, on est très vigilant là-dessus, et en fait, on rentre aussi dans la manière dont je pratique cette démarche, dans une évaluation de l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, moi, je vais opérer un reviewing de l'ensemble des évaluations pour m'assurer que justement les étudiants ont joué le jeu. Donc en fait, comme il y a une espèce de note d'évaluation qui est attribuée, au final, clairement, les étudiants jouent vraiment plutôt le jeu.
D'accord. Et justement, par rapport à ça, est-ce que, justement, par rapport à ton usage, je dirais, de l'IA de manière globale, est-ce que tu aurais vu une assistance que pourrait fournir ce type d'outil pour cette question de feedback et justement d'évaluation de qualité, entre guillemets, que pourraient fournir les étudiants?
Ce qui est intéressant avec le sujet de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est à la fois source d'un problème et possiblement une réponse et une solution à un certain nombre de problèmes. Alors, source d'un problème, pourquoi? Parce que quand on parle d'évaluation et qu'on parle d'IA générative, évidemment, les étudiants peuvent être assez rapidement tentés d'aller mobiliser cette technologie pour réaliser le devoir ou au moins une partie du devoir. C'est déjà quelque chose qui se produit. Hein. En fait, moi, dans les études statistiques que je peux faire, je constate que finalement, on a de l'ordre de 85 à 90% des étudiants en post-bac qui déclarent utiliser une IA générative, majoritairement d'ailleurs le modèle leader du sujet en version 3.5, version gratuite. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde finalement ces mêmes étudiants, est-ce qu'ils vont avoir un réflexe un peu automatique d'aller mobiliser ce genre d'outils? La réponse est non, hein. Ils sont plutôt à peine la moitié d'entre eux à y aller. Et après, quand on regarde le bon usage de cet outil, là, on chute assez fortement puisqu'on est autour de 5% de la part de population étudiante qui va utiliser correctement, j'ai envie de dire, ce type d'outil. Mais néanmoins, le problème autour de l'IA générative, c'est que ça vient effectivement challenger les mécanismes d'évaluation. Et moi, très tôt sur ce sujet, j'ai dit que finalement, si ChatGPT réussit un examen, il faut changer l'examen. C'est qu'on est à côté un peu de l'objectif et qu'on ne mesure pas finalement des compétences. On est peut-être juste sur la mémorisation, juste sur le fait d'ingurgiter beaucoup d'informations et de recracher ça, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que là où l'IA est quand même très performante, ça va être justement sur la capacité à intégrer énormément d'informations et de textes pour pouvoir en faire une synthèse et pour pouvoir amener finalement cette synthèse reformulée d'une ou une autre manière, mais en tout cas d'une manière qu'on va chercher adapter au public. Et donc c'est là où c'est assez intéressant, parce que du coup, quand on transpose ce type de technologie à l'évaluation entre pairs, du coup, on se rend compte que on va pouvoir proposer en fait le travail de l'étudiant à une IA pour en faire l'analyse selon un certain nombre de critères. Là, il faut être très vigilant parce qu'il y a encore beaucoup de biais, il y a encore beaucoup d'hallucinations, il y a encore beaucoup de mécanismes stéréotypiques dans les réponses des modèles d'IA. Okay. Mais ça peut quand même être un accélérateur non négligeable de l'évaluation sur un certain nombre de dimensions du travail, ne serait-ce que s'assurer des thématiques qui sont traitées et effectivement traitées dans le travail de l'apprenant. Et puis l'autre gros intérêt, je crois, c'est justement, au-delà de donner une évaluation plus rapide, ça va être de permettre en fait de faire une synthèse plus efficace des évaluations, puisque le principe de l'évaluation entre pairs, notamment tel que je la pratique, c'est-à-dire croisée, au final, un travail va être évalué 2, 3, 4, 5 fois sans difficulté. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir proposer une espèce de synthèse des évaluations qui ont été menées et surtout des axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, comme commentaire, attention, mise en forme, peut-être un peu moyenne ou améliorée, ou vigilance sur la qualité de l'orthographe.
Et que ça revient plusieurs fois.
L'outil va pouvoir aussi être force de proposition sur voilà comment améliorer un orthographe, voilà comment mieux mettre en forme le travail. Donc on voit bien qu'on a cet aspect à la fois synthèse des éléments, mais également presque tuteur, hein, c'est un des grands trucs autour de l'IA. Pas mal d'experts envisagent un tuteur IA. Voilà, je pense que c'est une dimension intéressante à explorer.
Effectivement. Et un point aussi qui peut être intéressant par rapport à ce que tu dis là, c'est même évaluer la qualité du feedback donné par les évaluateurs, en fait. C'est un petit peu ce qu'on appelle d'ailleurs... Alors, il y a possibilité de le faire, notamment dans certains outils, d'avoir un back feedback. C'est-à-dire, l'étudiant qui a été évalué va pouvoir faire un feedback sur le feedback qu'il a reçu. Donc, l'évaluer en termes de notation, par exemple. Et je pense que ça peut faire en sorte que l'évaluateur soit plus sérieux quelque part dans ce qu'il va faire. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tout de suite, par exemple, admettons, je prends un cas caricatural, quelqu'un corrige le devoir d'un pair et il va simplement mettre « oui, très bon travail ». Eh bien, là, l'IA pourrait tout de suite analyser ce texte et dire, non, c'est pas suffisant, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin, etc. Donc ça, c'est peut-être des usages aussi qui pourraient être intéressants, mais plus sur un côté live même, pour améliorer la qualité de cette évaluation. Et c'est sans doute le genre de chose qui va être progressivement implémenté aussi pour l'évaluation par les pairs. Parce que moi, ce que je constate, c'est quand même un des gros biais qu'on peut avoir là-dedans, ayant pas mal pratiqué ce type d'évaluation croisée également, c'est que certains vont jouer le jeu, mais genre même limite, ils vont parfois faire même de la surqualité. Et puis d'autres, ça va vraiment être ultra minimaliste. Ils vont simplement faire le job, mettre quelques points, etc. Et puis voilà, ils envoient sans qu'il y ait forcément un intérêt pour la personne qui a été corrigée. Donc là, effectivement, il y aurait éventuellement deux axes intéressants. Et ce que tu mentionnais peut-être au tout départ également, c'était même peut-être complètement une correction cette fois-ci d'évaluation par l'IA en elle-même. Et est-ce que par rapport à ça, parce que, alors c'est vrai que j'y pensais quand tu l'as abordé, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une évaluation avec les mêmes critères, etc., des notations, des commentaires faits par l'IA, ChatGPT ou un autre modèle de langage, et trois évaluations par les élèves, et voire même complétées par une évaluation par l'enseignant. Tu vois, quelque chose qui soit vraiment à 360. Et est-ce que dans tes pratiques, c'est des choses qui fonctionnent déjà, ce que moi je n'ai jamais vraiment testé, pour être honnête, de faire corriger par l'IA avec le bon prompt qui va bien un devoir avec un barème précis de A à Z. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as déjà vu?
Non, c'est pas si simple que ça, hein, parce que en fait le barème et donc les dimensions d'évaluation risquent de glisser au fur et à mesure de la correction par l'intelligence artificielle. D'une part, d'autre part, comme je le précisais, hein, on a quand même encore d'énormes risques en fait, hein, d'hallucinations ou de biais, et c'est ce qui rend en fait cette démarche-là très compliquée. C'est-à-dire qu'il faudrait presque développer, sans forcément aller jusqu'à un modèle qu'on irait fine-tuner par rapport à une typologie de devoir, etc., parce que ça serait la version extrêmement raffinée qui marcherait d'ailleurs très probablement, mais qui coûte extrêmement cher encore à l'heure actuelle à développer. On irait plus sur des dispositifs où finalement on ferait intégrer un exemple de ce qui serait bon comme copie, alors un ou plusieurs exemples, et après on essayerait de faire une espèce d'évaluation de scoring de la distance par rapport à cet exemple-là. Bon, ça c'est des techniques qui pourraient fonctionner. Je sais que certaines startups se lancent sur ce type de sujet. Maintenant, c'est quelque chose qui est très compliqué, au premier plan desquels, en fait, il faut obtenir des sujets, des copies qui sont de bon niveau, une distribution statistique de qu'est-ce qu'une bonne copie, qu'est-ce qu'une mauvaise copie. Et ces données-là, enfin, en tout cas, au niveau de Neoman, on considère que ce sont des données qui sont extrêmement confidentielles. Donc, on s'amuse pas comme ça à fournir des données d'apprentissage, a fortiori de futurs décideurs, à des sociétés pour entraîner des modèles d'IA, quoi. Ça en évite.
Est-ce que tu dis, alors il y a quelque chose qui existe déjà sans IA pour le coup, certains outils d'évaluation par les pairs qui vont justement former les évaluateurs en leur demandant de corriger une copie que l'enseignant a déjà corrigé. Alors ça peut être n'importe quelle copie, quoi. C'est pas forcément la copie qu'il va avoir à corriger après. D'ailleurs, c'est même pas cette copie-là, c'est vraiment une copie modèle ou voilà un exemple. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de mesurer l'écart entre l'évaluation de l'enseignant et l'évaluation de l'étudiant et de voir si l'écart est correct, entre guillemets. Ça veut dire qu'il a bien compris comment il fallait procéder, comment il fallait analyser le barème, etc. Donc effectivement, c'est des choses qui existent déjà, en fait, hors IA. Alors, peut-être, hein, comme tu dis, l'idéal avec un modèle fine-tuné, ce serait que l'étudiant évalue et que grâce aux résultats qu'on aurait eu avec ce modèle, eh bien, on puisse mesurer également l'écart et avec l'hypothèse que le modèle ne s'est pas trop trompé, on pourrait comme ça légitimer en quelque sorte l'évaluation de l'autre étudiant. Donc ça, éventuellement, ça pourrait être effectivement un usage, pourquoi pas, intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, pour bien corriger un devoir, et tous les enseignants le savent, il y a quand même des compétences à avoir, il faut avoir une maîtrise du sujet, et c'est un des gros intérêts aussi de l'évaluation par les pairs, hein, c'est qu'on monte en compétences aussi, hein, justement, quand on corrige d'autres devoirs. Mais malgré tout, étant donné qu'il y a quand même une question de notation, même si cette notation souvent est quand même, on va dire, au maximum, on conseille, moi je conseille aux enseignants de pas excéder 30% de la note finale, mais malgré tout c'est quand même une notation, donc c'est-à-dire qu'il y a des ECTS à la clé, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus, donc c'est vrai que ça peut être intéressant, et peut-être dans ce cadre-là, l'IA pourrait être utilisée également. Quoi.
Oui, et puis il y a plein d'autres techniques, moi je sais que sur l'évaluation entre pairs, je vérifie systématiquement la distribution statistique des notes, hein, c'est-à-dire que, une fois encore, un devoir... à Neoma, qu'on est sur l'évaluation entre pairs, est évalué au minimum 3 fois par donc 3 étudiants différents. On s'assure que on a une convergence statistique qui est cohérente. Tu vois, si on a un résultat du type, il y a une évaluation qui est à 5 et les 2 autres sont à 14, évidemment, on sort en fait tous ces résultats-là pour après opérer une évaluation, généralement par le prof directement pour regarder. Et après, ce qui est intéressant, c'est que parfois, j'ai des étudiants qui contestent un peu le mécanisme, hein, parce que c'est pas dans la culture française, d'ailleurs, hein, cette histoire d'évaluation entre pairs. Donc, quand j'amène le mécanisme, j'explique systématiquement, une fois encore, que ça fait partie de l'apprentissage et que c'est quelque chose qui est hyper important pour eux à développer en termes de compétences et qu'évidemment, ils vont être accompagnés par rapport à ça. Mais donc, du coup, moi, j'ai de temps en temps, alors c'est assez rare, mais j'ai de temps en temps des étudiants qui me disent « Ah, mais je suis pas en phase avec les évaluations que j'ai reçues. Qu'est-ce que je demande à une évaluation réalisée par vous en tant que prof, etc. Bon, aujourd'hui, donc je le fais systématiquement, hein, ça, là-dessus il n'y a pas de débat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'évaluation que je peux réaliser converge complètement avec l'évaluation qui est réalisée par les étudiants. Donc on voit
c'est rassurant.
C'est rassurant, mais on voit que c'est pas dans la culture et que pour autant, à partir du moment où c'est fait sérieusement, c'est-à-dire que une fois encore, le mécanisme entre pairs ne veut pas dire que l'institution ou le professeur se désengage du mécanisme. Ça veut dire qu'en fait, il l'évalue, il accompagne l'évaluation de manière assez différente. Et donc, voilà, il y a un moyen d'avoir ce type de résultat par le chiffre, avec une analyse statistique. Je pense que l'IA peut effectivement être un levier également complémentaire de suivi, de monitoring, finalement, de l'évaluation par le professeur.
Et un point intéressant que tu soulèves, hein, ça me fait penser surtout à la question aussi du barème qu'on va utiliser. Je pense que c'est le point vraiment essentiel pour que l'évaluation soit faite de manière correcte. À partir du moment où on va fournir un barème détaillé avec des attendus précis, je pense que là, l'étudiant a un mode d'emploi, entre guillemets, qui va suivre, hein, quelque part, un petit peu pas à pas, et évaluer de manière, on va dire, juste, hein, le plus juste qu'on peut, hein, parce qu'en docimologie, hein, la science de l'évaluation, on n'est jamais vraiment totalement juste. Mais c'est vrai que je pense que cette question de barème est aussi très importante, et ça me fait penser que d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs utiliser aussi sans doute un moteur d'IA génératif pour nous aider peut-être à construire un barème précis avec justement... en fonction de l'exercice demandé, alors sans doute qu'avec le bon prompt qui va bien. Alors moi, ça m'était arrivé d'ailleurs de faire pour le coup des choses un petit peu ressemblantes où justement je demandais au modèle de me donner des compétences clés développées dans le cadre de ce cours, par exemple, pour présenter un enseignement. Tu vois, ça peut être un petit peu de ce style-là, avec peut-être une notion de niveau également, hein, par rapport à ce barème. Et je pense que si on donne un document bien détaillé comme ça, ça peut vraiment aider, à mon avis, à ce que l'évaluation soit correcte. Donc ça peut être éventuellement un autre usage, je sais pas si tu...
Oui, non, mais clairement, de toute façon, une bonne évaluation, ça part déjà forcément d'une bonne explicitation de ce qui est attendu et donc de ce qu'on va évaluer. C'est un peu bateau, hein, de dire ça, mais c'est vrai que nous, on prend du temps à développer la grille d'évaluation et surtout à faire en sorte que nos étudiants évaluateurs comprennent chaque item d'évaluation. C'est-à-dire qu'on leur fournit la grille, mais on leur explique chaque item, on leur explique l'attendu derrière chaque item. Et cette étape-là, elle est importante, parce que c'est effectivement ce qui va éviter d'avoir des trop grandes disparités, finalement, dans l'évaluation, ou une incompréhension de ce qui est attendu, et de l'évaluateur, d'ailleurs, et de l'étudiant en tant qu'évalué. Donc, cette étape-là, hein, elle est vraiment cruciale dans le design même de l'évaluation qui est proposée. Et après, est-ce que l'IA générative peut contribuer finalement à assister le professeur par rapport à ce type de sujet? Oui, là, très clairement, c'est une technologie qui peut largement accompagner. Maintenant, bon, sur la partie structuration d'une évaluation, normalement, un professeur est censé ne pas être trop en difficulté là-dessus.
Mais j'étais un petit peu curieux d'ailleurs de... Est-ce que vous avez déjà mis en place, par exemple, une évaluation par les pairs dans un premier temps qui ne serait pas forcément notée, donc plutôt en formatif, et justement après d'évaluer de manière un peu plus sommative quelque chose corrigé par un enseignant? Parce que, en réfléchissant, je me disais, en échangeant là, c'est vrai qu'en termes de développement de compétences, quand une personne évalue ses collègues, etc., elle va forcément ingurgiter le cours d'une manière différente, le reformuler, etc., et sans doute être en mesure de refaire une évaluation du même type beaucoup plus qualitative. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté ou pas.
Alors, oui, mais uniquement à l'oral. C'est-à-dire que, en fait, sur un mécanisme d'évaluation, déjà, je pense que c'est important de rappeler qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il vaut mieux éviter d'avoir une seule évaluation sur un cours. C'est pareil, c'est un peu évident, hein, mais c'est bien de le rappeler. Et surtout, il faut, à mon sens, une pluralité des mécanismes d'évaluation. C'est-à-dire que si d'un côté, tu as, j'en sais rien, moi, une dissertation, un rendu écrit, un dossier, un projet, enfin, peu importe, mais à l'écrit, je trouve que c'est intéressant de compléter cette évaluation qui est faite à l'écrit par une évaluation qui, elle, se fera plutôt dans l'instant, dans l'instantanéité, et donc dans le live, et donc à l'oral. Et le mécanisme que tu décris, souvent, c'est ce vers quoi je vais quand on est justement à l'oral, où je demande systématiquement à l'ensemble de la classe d'être présente par rapport à une présentation, une soutenance orale réalisée par un groupe ou par un étudiant. Et souvent, hein, les étudiants me disent « Mais pourquoi on doit être là ? C'est un peu embêtant, machin. » Et je leur explique de nouveau pourquoi. Il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier intérêt, c'est qu'ils vont ils vont voir le sujet, la question, comment un autre groupe se l'est approprié, comment il la restitue, et du coup, ils vont enrichir en fait leur propre approche de la réponse possible à un sujet. Alors évidemment, moi, les questions que je pose, elles sont, enfin, il n'y a pas qu'une seule réponse, c'est-à-dire que il y a une infinité de cas d'application, et ce qui est mis en exécution, c'est plutôt l'application du cours dans un contexte d'entreprise que chaque groupe aura choisi. Donc finalement, quand j'ai une promo qui assiste à 10 soutenances, c'est 10 soutenances différentes, même si le point de départ est le même, évidemment le traitement est très différent. Donc j'estime que déjà il y a un apprentissage à ce niveau-là. Et il y a le deuxième levier d'apprentissage, et qui est celui que tu mentionnes, c'est que finalement, à observer d'autres étudiants en train de réaliser la réponse à une consigne qu'eux-mêmes ont reçue, ils vont pouvoir porter un regard critique là-dessus. Et c'est pareil, notre culture française fait que quand on dit critique, on est plutôt sur le négatif. Et c'est intéressant de voir que beaucoup d'étudiants insistent sur le négatif, et du coup je le rappelle systématiquement que critique ne veut pas forcément dire uniquement négatif, mais qu'il peut y avoir des critiques très positives.
C'est vrai que c'est intéressant cette phrase de regard critique, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un peu péjoratif, quoi.
Et ben ouais, et donc du coup, bon, ils apprennent ça, et ce qui est intéressant, c'est que du coup ils pratiquent justement leur regard critique complètement. Puisque bah du coup on est dans une interaction, hein, c'est un levier de discussion et d'échange en fait au sein du groupe d'apprentissage, ce qui fait que quand ils se retrouvent justement en évaluation entre pairs sur une évaluation cette fois-ci à l'écrit, ils vont pouvoir réinvestir tout ce qu'ils auront entendu dans cette démarche formative plus que sommative.
Ouais, donc, super intéressant. Ouais, donc à la fois le côté multimodal et en même temps couplé à l'évaluation par les pairs qui peut être ultra pertinent. Ben ouais, en tout cas, merci Alain pour ces idées. Et c'est vrai qu'on en parlait juste avant, mais de manière plus globale, je dirais que l'IA repose la question de l'évaluation sur plein d'aspects différents. Hein. Par exemple, bon, on le voit bien, hein, les évaluations par QCM, par aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Certaines universités ont même arrêté de demander aux étudiants de remettre des mémoires, des rapports, etc., parce qu'elles se rendent compte que les étudiants font que de l'IA. Mais c'est vrai que pour le coup, l'évaluation par les pairs, enfin, on en parlait tout à l'heure, ça nous semble un bon levier, quelque chose qui a encore sa pertinence à l'heure de l'IA, je dirais. Et voilà, c'est quelque chose que toi, tu prêches également au niveau de peut-être de Neoma.
Oui, une fois encore, de toute façon, les mécanismes entre pairs sont extrêmement bons. C'est-à-dire qu'à Neoma, on fait et de l'évaluation entre pairs, on fait également et de la formation entre pairs. C'est-à-dire qu'on a des systèmes où, par exemple, parce que comme on a des profils d'étudiants très différents les uns des autres, il arrive assez régulièrement, par exemple en économie, qu'on ait des étudiants qui arrivent en ayant un excellent niveau et finalement qu'il faut réussir à continuer d'engager dans le cadre du cours. Et justement, sur cette démarche d'apprentissage entre pairs cette fois-ci, c'est hyper intéressant parce que ils ont un super niveau au sens où leur parcours leur a permis de s'approprier un certain nombre de concepts, mais là finalement en leur demandant de former quelque part ou d'accompagner la formation de certains de leurs copains de promo, en fait on leur demande de réinvestir ces concepts pour cette fois-ci faire en sorte que quelqu'un d'autre se les approprie. Et ça en fait c'est pour moi le stade presque ultime de la compétence, c'est-à-dire que on va pouvoir transmettre de la compétence, on va pouvoir transmettre de la connaissance que si soi-même on a intégré, ingurgité, parfaitement compris le sujet. Donc on est vraiment très friand de ces démarches entre pairs, que ça soit sur la partie évaluative ou que ça soit sur la partie également formative, parce qu'on estime que c'est extrêmement riche en fait pour nos étudiants que d'apprendre quelque part à révéler tout le spectre de leur potentiel et notamment celui d'accompagner les autres et également d'être en capacité de formuler des feedbacks et des conseils à d'autres étudiants.
C'est vrai que ça me fait penser sur la taxonomie de Bloom, entre guillemets, ce niveau supérieur, c'est justement, il me semble, l'évaluation, justement, la capacité à pouvoir prendre du recul et évaluer, et puis ça corrobore effectivement ce que tu dis par rapport à l'évaluation par les pairs. Écoute Alain, merci pour tous ces apports. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant de conclure par rapport à, encore une fois, ce grand sujet de l'IA et de l'évaluation par les pairs?
On a abordé pas mal de sujets. Moi, je crois que aujourd'hui, en fait, l'IA et l'IA générative vient beaucoup transformer la pédagogie. Et c'est important de se poser toutes ces questions en termes de design de l'expérience pédagogique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut pas être bloqué par rapport à cette technologie. Il faut pas non plus être démesurément enjoué à la placer partout tout le temps. Faut essayer d'évaluer ce que cette technologie permet réellement. Moi, je crois qu'elle permet énormément de choses dans la transformation de l'expérience pédagogique. L'enjeu, effectivement, d'évaluer ça et après d'accompagner en fait l'ensemble des collègues et des professeurs sur le bon usage autour des IA génératives.
Écoute, parfait, sur ces mots on va pouvoir se quitter. Et puis merci encore Alain pour ta venue. Et puis je souhaite une excellente journée aux auditeurs et à la prochaine pour un prochain Peer Power.
Merci Julien, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Peer Power, donc réalisé en collaboration avec ChallengeMe et sa solution d'évaluation par les pairs. Tous les liens sont en description et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast autour de vous. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.